Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la Grande Table, Trump ou la disparition du politique, alors que s'ouvre demain à Washington son procès en destitution. Avec nous, le philosophe Alain Badiou, professeur émérite à l'ENS, figure de la gauche radicale intellectuelle communiste, plus de 10 ans après De quoi Sarkozy est-il le nom ? L'auteur de La République de Platon s'intéresse aujourd'hui à la personnalité du président américain dans un court essai sobrement intitulé Trump, où il ne ménage pas sa critique. Fin du politique. Triomphe du capitalisme, Alain Badiou revient sur ce moment historique que fut son élection le 8 novembre 2016. Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Un contre-événement dont il analyse les conséquences en trois parties. 2 jours après, 2 semaines après, 3 ans après, nous y sommes. Alain Badiou, bonjour.
Bonjour.
À mes côtés, Hervé Aubron du Nouveau Magazine Littéraire qui consacre dans son numéro de janvier un dossier aux 10 philosophes qui influencent le monde, pour le meilleur ou pour le pire. L'allemand Jürgen Habermas, les américaines Judith Butler ou Martha Nussbaum, le slovène marxiste Slavoj Žižek ou encore le français Alain Badiou, présenté comme l'éveilleur de toute une génération d'élèves rue d'Ulm, à la manière de Althusser, et comme celui qui aura incité la philosophie à renouer avec sa mission première, réfléchir au fondement ultime de notre pensée. Bonjour Hervé Aubron.
Bonjour.
Comment avez-vous établi cette liste? Comment devient-on un penseur influent comme Alain Badiou?
Bon, évidemment, il y a une part de cuisine, un petit peu. C'est notre chroniqueur en philosophie, enfin un de nos chroniqueurs philo, Patrice Bollon, qui a fait ce petit partage. Il a essayé de faire un paysage, évidemment, on va dire un peu représentatif des épicentres, des questions, des méthodes aussi, parce qu'on a vraiment, entre Habermas et Badiou, autant dire qu'on a quand même des penseurs extrêmement différents. Et puis, il a quand même eu recours aussi à des outils un peu plus scientifiques, entre guillemets, des outils bibliométriques, parce que le web permet quand même, ne serait-ce que par le nombre d'occurrences, les citations, etc., de mesurer quand même quantitativement le rayonnement d'un philosophe.
Ce qui veut dire que la pensée d'Alain Badiou a une forte empreinte digitale.
Oui, même si les adversaires de Badiou peuvent le présenter comme un archéo, vestiges Mao, etc. Il a encore une très forte audience, notamment peut-être du fait de cette radicalité politique, pardon, mais aussi parce que, en tant que quelqu'un qui continue à faire de la métaphysique.
Voilà. Et il n'y a sur les 10 philosophes que vous avez gardés, en tout cas selon cette méthode, que 2 Français, dont Alain Badiou et un deuxième qui est
Bruno Latour. Il y aurait pu y avoir d'autres philosophes encore, mais Bruno Latour. Je voulais justement, simplement en prélude, et c'est une manière peut-être d'arriver à Trump, vous parler un petit peu de Latour et de ce que vous en faites. Parce qu'a priori, vous êtes quand même, je dirais, des penseurs assez éloignés. Vous venez d'horizons très différents. Quel usage vous avez de la lecture de Latour ?
De Bruno Latour. Je pense que Latour, à mes yeux, est un, comment dirais-je, un philosophe, mais un philosophe qui nous propose quelque chose comme une véritable chronique du monde contemporain. Ce qui me plaît chez Latour, c'est qu'il est très proche des caractéristiques novatrices, enfin singulières, du monde d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, j'ai souvent le sentiment que, du point de vue de mes catégories à moi, je dirais qu'il est quelque part du côté de la philosophie, sans doute, mais dans son versant anthropologique, historique et analytique. Si bien que nous ne sommes pas rivaux, à mon sens, parce que nous sommes plutôt disjoints, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je peux m'intéresser à lui sans entrer aussitôt dans une figure polémique, parce que bien des phénomènes qu'il décrit comme des symptômes du monde contemporain, je les valide aussi en tant que tel. Donc nous partons au fond de descriptions qui sont comparables. Par ailleurs, je suis intéressé par le fait que il y a une tournure crypto-scientifique quand même chez lui. Il y a un mode de pensée et de procédé qui me paraît relever d'une rationalité véritable.
Hervé Aubron.
Simplement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Bruno Latour, sur le fond politique, enfin sur la question politique, on a l'impression que d'ailleurs c'est quelqu'un qui était quand même, qui venait pas vraiment de la gauche à la base, mais qui va de plus en plus quand même vers, enfin, il y a notamment son petit livre qui s'appelait Où atterrir, où clairement, c'est aussi une manière d'arriver à votre livre, il commençait à s'interroger sérieusement sur la capacité de la démocratie à affronter l'enjeu environnemental. Mais je voulais juste, en complément, vous poser précisément une question sur l'écologie. On a l'impression que vous êtes assez rétif à un certain discours écologique que vous pouvez qualifier de hochet ou de hochet idéologique. Et par exemple, dans votre livre sur Trump, vous n'évoquez pas du tout le fait que, quand même, le climato-scepticisme, sinon le climato-négationnisme de Trump est quand même quelque chose d'extrêmement prégnant. On a l'impression que c'est pas pour vous l'enjeu premier.
C'est-à-dire que ce qui me gêne dans une certaine figure d'écologie, c'est que elle fait comme si on pouvait créer autour de ce phénomène une sorte d'unanimité neutralisant au fond les différenciations politiques. Et cela aboutit d'ailleurs au fait que tous les gouvernements font des grandes déclarations sur l'écologie, etc., tout en soutenant une inaction véritable. C'est le diagnostic qu'on fait à chaque grande conférence. Ce qui a été décidé n'est pas appliqué, etc., etc. Ce qui dément le fait qu'il y a une mobilisation unanime autour de la question climatique. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on désigne clairement la dévastation capitaliste du monde comme un élément constitutif de l'écologie. C'est ce qui la politise et ce qui, en réalité, la fait échapper à la figure un tout petit peu messianique tout de même, qui est la sienne, vaguement religieuse quand même, c'est la fin du monde, c'est le jugement dernier, toutes les forces humaines doivent se rassembler autour de cette cause, etc. Alors que la vérité, c'est que toute une série de gens sont extrêmement intéressés à la continuation pure et simple de ce qui existe, et qu'ils la mettent en avant et la défendent. C'est ce côté diviseur qui me paraît faire défaut à l'écologie, et je n'aime pas cette espèce d'unanimisme un tout petit peu mystique comme ça autour de Gaïa, autour de la déesse nature.
Voilà,
pour moi, la nature n'est pas du tout une déesse. Elle est très souvent une ennemie, il faut bien le dire. Une partie de l'humanité s'est construite contre elle et en même temps s'est construite aussi dans une investigation nouvelle de ce en quoi elle constituait. C'est tout le versant scientifique de l'analyse de la nature. Et la nature, convoquée en tant que telle, n'a aucun souci particulier de l'humanité. Hein. Elle en a vu d'autres, la nature. Elle a vu passer pendant 60 millions d'années les dinosaures, et puis les dinosaures ont disparu, la nature a continué son chemin. Donc il y a une complicité avec la nature qui me paraît non plus pas appréhender le véritable problème.
Face à Gaïa, c'est aussi une référence, un clin d'œil à l'un des précédents essais de Bruno Latour, celui qui a précédé ou atterrir. Est-ce que le monstre capitaliste que vous décrivez dans ce court essai qui paraît aux presses universitaires de France, Trump, Alain Badiou, est-ce que le monstre capitaliste a aussi dévoré et digéré cette question de l'environnement et de la nature? Et est-ce qu'on le verra demain, notamment au forum de Davos, où aux côtés de Greta Thunberg, attendu, il y aura aussi Donald Trump, hein?
Oui, non, mais Donald Trump est un personnage qui peut se présenter partout. C'est une de ses capacités. C'est un côté de personnage de théâtre, comme ça, qui peut aller jouer ses scènes de façon très diverse. En plus, il peut avoir avec la même personne des rapports absolument divisés eux-mêmes. Il n'y a qu'à voir la sorte de ballet qu'il danse avec le dirigeant coréen. Donc, il y a un noyau d'hostilité constitué chez Trump, et puis il y a aussi des choses qui sont capricieuses, flottantes, et dont il parle au petit matin dans des tweets de façon diversifiée. Donc, Trump est un climatologue sceptique pour l'essentiel, mais il peut aussi parader en n'importe quelle circonstance. Je suis très frappé de voir que c'est quelqu'un qui n'a on dirait si on était en psychanalyse que c'est quelqu'un qui n'a aucun surmoi.
Mais est-ce que l'écologie,
il n'est pas surveillé par lui-même.
Est-ce que l'écologie, Alain Badiou, peut faire partie de cette alternative, de cette contradiction que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'elle peut être cette nouvelle idée qui peut permettre d'opposer une vision, une autre vision du monde à la vision capitaliste actuelle qui est dominante?
Je pense que en quoi consiste, nous le savons quand même depuis Marx, en quoi consiste le noyau dur du capitalisme? C'est-à-dire ce qui fait qu'on peut parler de capitalisme dans des conjonctures très différenciées par ailleurs, c'est évidemment le fait que les grands moyens de production, d'échange et de distribution sont appropriés dans un registre privé. Alors, qu'ils soient appropriés dans un registre privé signifie qu'en réalité la norme générale qui les occupe est celle du profit. profit abstrait qui prend lui-même un tour, finalement, d'autonomie financière. Ça, c'est le capitalisme. Et tant que, d'une certaine manière, on n'extirpe pas le caractère absolument normatif du profit, on est dans la situation que nous connaissons depuis le 19e siècle. Et pourquoi, par exemple, y a-t-il tant d'obstacles à régler les problèmes climatiques? C'est que les régler toucherait à un état des choses de la production, de sa possession et de la distribution des richesses qui déséquilibrerait gravement l'être capitaliste du monde.
Alors, cet essai, Trump, pourquoi ce titre si simple? Pourquoi est-il si sobrement titré? Est-ce qu'aujourd'hui ce nom résonne comme une charge, tout simplement, et qu'il n'était même pas nécessaire d'en rajouter?
Je pense que je traite Trump plutôt comme un symptôme, en vérité. C'est-à-dire que mon essai n'est pas tant une description des activités de Trump bien connues par tout le monde, mais c'est le nom d'un symptôme. C'est pour ça que je me dis Trump comme nom d'un symptôme. Et au fond, je me demande après de quoi, effectivement, Trump est-il le symptôme? C'est-à-dire quel est l'univers qui a rendu possible que Trump soit là comme un des symptômes du monde contemporain? C'est pour ça que j'avais pas besoin de dire autre chose que Trump. Je dois dire aussi que le livre est entièrement marqué par sa conjoncture première, qui est une conférence que j'ai faite à Los Angeles en anglais le jour de l'élection de Trump, devant un public terrorisé, littéralement, parce que pendant toute une partie de la nuit, on a tout de même pensé, et eux pensaient que Hillary Clinton allait être élue. C'est que l'élection de Trump s'est consolidée au fil de la nuit. Et j'avais donc devant moi une masse d'étudiants, d'enseignants, de professeurs, etc., qui étaient encore sous le choc de l'élection de Trump. Et donc, c'était la frappe du mot Trump, finalement, qui m'intéressait dans cette circonstance, où j'avais le sentiment de devoir quand même expliquer le symptôme. C'est-à-dire comment il se faisait que cette chose imprévisible et à leurs yeux terrible avait pu se produire.
Il y avait des signes avant-coureurs. Vous parlez de cette élection comme d'un désastre, d'une horreur. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, vous citez Racine à ce propos. C'est un fait négatif tel que vous l'établissez, mais ça n'est pas pour autant un événement. Est-ce qu'il y avait des signes pour vous avant-coureurs de cette élection?
Eh bien, c'est un peu tout le problème du livre, de ce livre. Ce que je tente de dire, c'est que sans qu'il y ait à proprement parler de prodrome ou de prémisse de Trump en tant que Trump, il y a chez lui une extravagance singulière, quelque chose attestait un dérèglement du fonctionnement de la démocratie parlementaire, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Et que Trump a surgi comme une anomalie, malgré tout, au regard de ce qui avait précédé. Et aux États-Unis tout particulièrement, parce que ça venait après une autre anomalie, mais de sens contraire malgré tout, qui était l'élection d'un président noir avec les deux investitures d'Obama. Donc c'était à la fois violemment le contraire de ça, au sens où l'élection d'un noir c'était tout de même quelque chose qui s'inscrivait dans comme une libération de la question noire au sein des États-Unis, c'était un contre-exemple, et en même temps ça relevait quand même d'une situation qu'on pouvait analyser, qui était une situation de dérèglement du fonctionnement des partis dans le dispositif parlementaire à échelle mondiale. Exactement comme en France, on est dans un moment où la gauche est décomposée, la droite est malade, l'extrême droite bien en cours, et que finalement, on fait surgir un personnage diagonal dans la figure du président Macron. De même aux États-Unis, en réalité, l'élection de Trump est le signe d'un dérèglement profond du rapport normal entre républicains et démocrates, c'est-à-dire entre la droite et la gauche. Trump est excessif au regard de la droite elle-même, cependant que Hillary Clinton était déficitaire, si je puis dire, au regard de la gauche elle-même, et c'est dans ce contraste que s'est faufilé le succès de Trump.
Une question d'Hervé Aubron du Nouveau Magazine Littéraire.
Oui, vous évoquez d'ailleurs quand même, vous faites pas de la politique fiction, mais pour vous quand même, Bernie Sanders aurait été le vrai adversaire face à Trump.
Oui, je pense d'ailleurs que c'est de la fiction au sens où je ne pense pas du tout que Sanders aurait été élu. Hein, c'est pas ce que je pense. Oui. Mais je pense que
le vrai choix était là.
Voilà, face à un, ça aurait été une véritable symétrie. Ça aurait remplacé la symétrie gauche-droite par une symétrie annexe qui aurait été extrême gauche, extrême droite. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui travaille le fait que le jeu à deux est progressivement remplacé par un jeu à quatre, quelque chose comme ça. C'est-à-dire là où on avait la gauche et la droite, leurs combinaisons, leurs alliances et leurs ressemblances aussi sur le fond, on a en plus un débordement sur la droite et une esquisse de débordement sur la gauche qui crée une nouvelle situation. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, le débordement sur la gauche ne prend pas une figure vraiment parlementaire. Ça prend la forme de mouvement, en réalité. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui, c'est que nous avons des mouvements à la place de l'extrême gauche, nous avons la gauche décomposée, nous avons une droite affaiblie, puis nous avons l'extrême droite, qui est tout de même, elle, très constituée et très organisée. Alors, je pense que ce brouillage du 2 gauche-droite par le 4, c'est l'arrière-plan, quand même, quasiment mondial aujourd'hui, aussi de l'élection de Trump. Mais à certains égards, aussi, et Dieu sait, je ne compare pas les deux personnages, ça a été déjà, chez nous, l'arrière-plan de l'élection de Macron. Car il a été élu sur le fond d'une débâcle de la gauche pour empêcher l'extrême droite. Voilà. Alors ça, c'est une figure qui fait surgir un personnage imprévisible, incalculable.
1965, François Mitterrand revient sur ce clivage gauche-droite et estime que les mots déjà sont bien vieux et ne signifient plus grand-chose. Écoutez.
Qu'est-ce que le pouvoir personnel, sinon l'abandon par près de 30 millions de citoyens français de leur destin dans les mains d'un seul homme, sinon l'abdication de la souveraineté populaire au profit d'un guide ou d'un maître? C'est parce qu'elle a compris cela que la gauche, pour la première fois depuis 30 ans, s'est enfin réunie. C'est pour cela que pour la première fois depuis 30 ans, la gauche autour de moi s'est rassemblée face à une droite dominée sans doute par la personnalité du général de Gaulle, mais profondément divisée. La gauche contre la droite, peut-être pensez-vous que ces mots sont bien vieux et qu'ils ne signifient plus grand-chose. Je vous les abandonne si nous sommes d'accord sur le reste. C'est-à-dire, si nous admettons qu'il y a dans toute société ceux que révolte l'injustice et ceux qui s'en accommodent, ceux qui refusent de changer par indifférence ou bien par intérêt, quoi que ce soit, aux structures du passé, et ceux qui, au contraire, recherchent dans le présent les chances de l'avenir.
Alain Padiou, dans cette symétrie-là, est-ce que on pourrait se retrouver aujourd'hui ?
Oui, mais je pense que la situation est très, très différente. La situation est très différente en particulier parce qu'une complication singulière du jeu politique contemporain concerne sa localisation. Tout le monde prend acte du fait que, dans la figure capitaliste et financière, le monde économique est mondialisé aujourd'hui. C'est-à-dire le monde économique est transversal à l'ensemble des nations parce que il se réfère à un marché mondial, aussi bien des marchandises que des capitaux, qui circulent à vive allure dans la totalité de la planète. Par ailleurs, la politique, elle, est restée localisée à l'échelle nationale, c'est très frappant. Toutes les tentatives de gouvernance mondiale sont extrêmement faibles, précaires et inopérantes. Donc on a une contradiction de localisation entre l'activité politique, qui pour l'essentiel continue à se réclamer de l'espace national, c'est là qu'elle a lieu, c'est là qu'il y a les élections et c'est là qu'il y a les pouvoirs, et puis l'économie qui s'est déplacée dans ce que déjà Marx appelait le marché mondial, et auquel il pensait d'ailleurs lui opposer une internationale, justement, et non pas une force nationale. Et cette contradiction s'est beaucoup augmentée depuis l'époque de l'Union de la gauche, dans les années de Mitterrand, et elle pose un problème qui, à mon avis, n'est pas résolu pour l'instant. Alors, ce problème est celui qui conduit finalement à l'organisation en quatre termes. Parce que dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il va surgir ? Il va surgir une aile qui veut approprier chaque pays aux exigences du marché mondial. Il y a quelque chose comme ça chez Macron, il faut le dire. La modernisation de Macron, c'est tout de même de faire que la France soit un acteur complet du marché mondial. Et puis vous avez un contre-courant qui estime qu'il faut fermer la nation. Vous avez par conséquent la réapparition de nationalisme agressif, anti-étranger, éventuellement para-religieux, etc., qui contamine le jeu politique général. Tout ça, ce sont les productions tout de même pathologiques de cette contradiction pour l'instant intraitée, peut-être intraitable, entre la localisation du pouvoir politique et la mondialisation de l'économie.
Hervé Aubron.
Mais est-ce que il y a quelque chose de paradoxal à cet égard chez Trump, puisque s'il a été élu, effectivement, s'il a charmé des électeurs, c'est d'abord parce qu'il y a effectivement une recherche d'homme à poigne, pour le dire vite. Donc il y a aussi quand même un désir politique là-dedans qui est rempli. Je veux dire, on cherche des pseudo-hommes à poigne qui ont une volonté et de peser et de changer le cours des choses face au fatalisme, de l'ultralibéralisme, etc. Mais donc ce qui est très paradoxal quand même chez Trump, et il y aurait peut-être presque une ruse de l'histoire que l'Europe d'ailleurs ne saisit pas, c'est que, alors même qu'il représente en effet le capitalisme dans toute sa splendeur, l'ultralibéralisme dans toute sa splendeur, son impulsivité fait que parfois, notamment je pense à ces mesures protectionnistes, tout d'un coup, il rompt le jeu apparemment, et tout d'un coup, il pèse, il n'est pas dans le laisser-faire, je dirais, ultra-libéral habituel. Or d'ailleurs, voilà, entre la Chine et les États-Unis, bizarrement, l'Europe, il y a qu'eux qui sont toujours dans la fatalité ultra-libérale. Mais est-ce que, il y a un vrai paradoxe quand même là, non?
Oui, c'est un vrai paradoxe, mais on peut, si je puis dire, le déduire du panorama général. Parce que la position des États-Unis est singulière, dans la mesure où, acceptaient le marché mondial sous la condition d'en être le régent dominant. Et ça, c'est toute la question du dollar. Tant que le dollar reste la monnaie d'échange, les États-Unis peuvent penser que la mondialisation les sert, eux. Et ce qui peut les inquiéter, c'est quand il paraît que ça pourrait être aussi servir les autres, et notamment l'adversaire chinois. Autrement dit, on a la combinaison entre la contradiction entre nation d'un côté, pouvoir politique et économie mondialisée, mais on a une autre contradiction, c'est celle de la souveraineté possible d'une nation ou d'un appareil national sur le marché mondial lui-même. Et là, on sait que c'est la question du statut des États-Unis et via le dollar. Voyez comment, quand Trump non seulement est sorti de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, mais à menacer quiconque continue à commercer avec l'Iran de le retirer de la possibilité des investissements américains, j'ai été stupéfait de l'obéissance générale auquel ceci a encore conduit, y compris des gouvernements nationaux comme la France, etc., se sont largement inclinés devant ce verdict, même s'ils l'ont dénoncé formellement. Des grandes sociétés considérables comme Total sont réellement sorties du marché iranien. Donc voilà, on est sur ce point dans la possibilité que un marché mondialisé contienne en lui-même les restes d'une souveraineté nationale, à savoir la grande puissance ou les grandes puissances. Alors ça, c'est ce qui a été appelé la lutte pour l'hégémonie mondiale. Elle a été idéologique pendant tout un temps entre la Russie soviétique et l'Amérique capitaliste. Là, elle est entre un vieux capitalisme installé et dominant, celui des États-Unis, et un jeune capitalisme effervescent, qui est celui des Chinois.
Alain Badiou, produit de la victoire mondiale du capitalisme libéral et donc de l'échec des grands États socialistes et la perte d'influence d'autres idéologies comme le communisme, vous dites que c'est cette croyance en une voie unique qui définit le moment actuel incarné par l'élection de Donald Trump en 2016. Cette vision dominante du monde qui a des conséquences politiques et qui se satisfait, vous le rappelez, ou en tout cas vous l'évoquez, des inégalités du monde actuel. Inégalité une fois encore surlignée par l'ONG Oxfam qui publie son rapport annuel aujourd'hui à la veille du forum de Davos et qui nous montre que les milliardaires les plus riches dans le monde détiennent plus d'argent que 60% de la population mondiale. Jusqu'où va-t-on accepter ça, cette inégalité-là, qui semble constitutive? Et est-ce que c'est d'une réaction possible, d'une révolte possible face à ces inégalités que vous attendez l'ouverture d'une autre voie?
Je pense que sur le fond des choses, oui. Il est évident que les inégalités absolument monstrueuses et qui vont croissant à raison du principe de la concentration du capital, hein, qui est une loi quand même du capitalisme lui-même. Ces inégalités sont évidemment la source de révolte, de protestation, parfois aveugle, parfois moins aveugle. Et il est évident que elles sont à ce point pathologiques que on peut imaginer qu'il soit nécessaire de construire un monde dans lequel elles disparaîtraient, s'affaibliraient, etc. Donc cette question des inégalités est centrale, ça c'est certain. Elle l'a toujours été, c'est une inégalité on peut l'appeler inégalité de classe, on peut appeler ça une oligarchie plutôt qu'une démocratie d'ailleurs. Et je pense que le monde tel qu'il est aujourd'hui commence à être, sans trop savoir que c'est de ça qu'il s'agit, commence à être troublé, puisque nous assistons quand même dans ces dernières années, sous des formes extraordinairement variées à propos d'enjeux extrêmement disparates, à une considérable agitation populaire, il faut le dire. Une considérable agitation populaire qui pour l'instant est évidemment en tant que phénomène mondial relativement aveugle, puisque ça peut être la protestation contre un gouvernement corrompu ici, là contre une mesure inacceptable, ailleurs contre la perte du travail, etc. Donc des motifs très variables, mais dont je pense que l'unité profonde est que les gens considèrent que une masse de gens, de façon dispersée et massive en même temps, considèrent qu'on ne peut pas continuer dans la voie existante. Et je constate que l'idée que c'est une voie, une forme générale qui est l'adversaire véritable, progresse au fur et à mesure que ces révoltes se déplient, se déploient dans leur diversité.
Alain Badiou est notre invité jusqu'à 13h30, philosophe, auteur en cette rentrée de janvier de Trump aux presses universitaires de France. À mes côtés aussi, Hervé Aubron, rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire à l'occasion de la parution du numéro de janvier consacré aux 10 philosophes, dont Alain Badiou, qui influencent le monde pour le meilleur ou pour le pire.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Dans cet ouvrage, Trump au puf, Alain Badiou, vous cherchez la bonne échelle pour qu'advienne cette alternative que vous appelez de vos voeux, ce socle, pour qu'advienne cette nouvelle idée qui permettrait de renouveler l'engagement. À propos des formes de l'engagement, je vous propose juste d'écouter les mots de l'historien Christophe Prochasson, président de l'École des hautes études en sciences sociales, qui faisait paraître l'an passé « Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État ».
Je crois que tout le vieil héritage né au XIXe siècle, qui a fait notre vie politique, les intellectuels, les partis politiques, un certain nombre de doctrines, enfin ce modèle-là, en effet, d'une certaine façon, ne fonctionne plus. Ces agencements-là ne fonctionnent plus. L'engagement en particulier, tel qu'il a été conçu comme une figure un peu romantique, ne fonctionne plus. Mais ça ne veut pas dire que... évidemment, il faut que chacun reste chez soi et regarde l'histoire se dérouler. C'est pas du tout le point de vue qui est le mien. Il faut trouver sans doute d'autres rapports aux politiques, que les chercheurs trouvent un autre rapport aux politiques, moins institutionnalisé sans doute, qui leur permettent de dérouler leur travail dans des perspectives politiques, mais en étant des êtres libres.
Voilà, le vieil héritage ne fonctionne plus, dit Christophe Prochasson, Alain Badiou. Vous plaidez quand même pour le retour de l'hypothèse communiste. Vous dites d'ailleurs, j'ai pas trouvé d'autre mot. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. C'est ça l'idée neuve?
Écoutez, la question est au fond de savoir si la situation actuelle, où on a d'un côté un processus accéléré de concentration vertigineuse du capital, avec les dévastations que ça entraîne, et de l'autre des mouvements multiformes, etc. Est-ce que cette situation ne porte pas, à un moment donné, la nécessité d'une vision d'ensemble? Cette vision d'ensemble, c'est une vision d'ensemble qui, en tout cas, doit éclairer pourquoi il y a les inégalités monstrueuses dont nous parlions tout à l'heure, et comment y mettre fin, si c'est possible. Alors c'est ça C'est ça que j'appellerais une nouvelle hypothèse communiste. Une hypothèse communiste au sens où elle remettrait en scène la conviction que ce qui est commun ne doit pas être approprié de façon privée. Voilà. Et donc, le mot privatisation, du reste, est un mot caractéristique de notre période. Parce que quand même, dans l'histoire française, antérieurement, depuis au moins le Front populaire, le mot nationalisation était un mot agité dans la politique. Mitterrand, lui-même, a proposé un programme très important de nationalisation, donc de collectivisation, au moment de son élection. Tout ça est retombé, tout ça a échoué. Ce sont, au contraire, les privatisations qui sont à l'ordre du jour. Macron pousse le bouchon assez loin de ce point de vue-là, dans les privatisations, les aéroports, la Française des Jeux, etc., etc. Et ce qui peut s'opposer à un mouvement de privatisation comme symbole majeur de la période, c'est tout de même nécessairement un mouvement qui va rappeler que ce qui a une destination commune, ce qui est un bien commun de l'humanité, doit être approprié collectivement. Voilà. Et je ne pense pas qu'on puisse sortir de ce schéma. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'idée communiste. Si on me propose un meilleur mot, moi, la question des mots n'est pas à mes yeux une question décisive, mais communisme, me semble-t-il, a été l'hypothèse qui portait cela. Elle a pris une forme étatique et despotique qui a finalement enterré son existence. Il faut la ressusciter au vu de la situation déchaînée du capitalisme triomphant.
Et les États ont encore leur place dans cette...
Les États.
Alors, dans cette reconfiguration.
Il est absolument évident que la question des États reste difficile, parce que au fond...
Parce que vous racontez leur mise au pas hein, dans ce livre. Hein.
C'est sur la question de l'État que le communisme classique a échoué, il faut bien dire. Parce qu'il n'a pas été une appropriation commune des biens communs véritables, il a été une appropriation centralisée et étatique de ces biens communs, et n'a pas fait la preuve qu'il pouvait passer dans une étape ultérieure. Il faudra partir donc de façon différenciée, et je pense de ce point de vue-là qu'il faut revenir à ce qui était quand même l'inspiration originale du communisme, à savoir que la politique communiste doit d'emblée se constituer à échelle mondiale. Et là aussi, il va falloir revisiter, retransformer, inventer ce que peut être aujourd'hui une organisation politique d'à échelle mondiale.
Dernière question très courte.
Je voulais parler justement des États, mais en fait, il y a là-dedans il y a la question quand même du micro et du macro, je dirais, parce qu'on a aussi, vous dites à l'échelle mondiale le communisme, mais on a aussi le sentiment qu'il y a de plus en plus de mouvements qui sont plutôt tournés vers des communautés, des échelles beaucoup plus réduites pour le coup.
Oui, mais je pense qu'il peut y avoir une internationale des échelles réduites. C'est ça. Et l'international, il faut bien voir, les internationales classiques ont été étatiques au sens où elles étaient, au fond, une fédération de délégations nationales, pour l'essentiel. C'est ça qui les constituait. Le fait que ça pourrait être une fédération d'expériences localisées, pas d'ailleurs nécessairement au niveau national, mais même à un niveau infranational, c'est-à-dire quelque chose qui ferait circuler des expériences d'appropriation collective différenciées, mais au niveau mondial, serait sans doute une meilleure piste. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Il faut partir des expériences plutôt que des configurations établies. Donc les États, ça, c'est au fond une étape à dépasser. C'est une étape à dépasser. Comme vous le savez, sans doute, je soutiens que ce qu'on appelle communisme, c'est la sortie du néolithique. C'est-à-dire, c'est la sortie du triangle propriété privée, famille, État, qui est quelque chose de plus vaste que le capitalisme.
Merci beaucoup à vous, Alain Badiou-Trump. Votre nouvel essai, court et vif, vient de paraître aux Presses universitaires de France. Merci, Hervé Aubron. Je rappelle la sortie du numéro de janvier du nouveau magazine littéraire consacré aux 10 philosophes qui influencent le monde, avec notamment tout un dossier, un article aussi sur la pensée française à l'heure d'aujourd'hui, où on vous retrouve, Alain Badiou, ainsi que Jean-Luc Nancy, Bruno Latour ou encore Jacques Rancière, Pierre Georges, Didier Huberman, nos philosophes et cette jeune garde à laquelle vous prêtez aussi attention. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous autour de cette grande table et à toute l'équipe qui attaque cette nouvelle semaine, à Oriane Delacroix, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard, avec Olivier Arnay à la vidéo, Swat Boukorsa et Cindy Legrumelec. Bel après-midi sur Culture.